Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h à la radio Jounankan de Koulikoro, même heure à la maison de la presse à Bamako. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition matinale. Au sommaire, à quelques jours de la rentrée des classes, les vacanciers se préparent à retourner dans leurs localités respectives. Mais comment les parents parviennent à faire face aux dépenses de la rentrée? La réponse dans ce journal. À Mopti, le poisson se fait rare. Le secteur de la pêche est impacté par le dérèglement climatique et les comportements des riverains. Quel sort est réservé aux artisans de bassins teintés en cette ère de bassins en couleur importée? Des acteurs du domaine ne semblent pas être inquiétés. À la présentation, Juliette Koulibaly Gagne-Kanté assure la partie technique. La rentrée des classes s'annonce à grands pas, c'est l'heure du retour des vacanciers dans leurs localités respectives. Cependant, cette année, le rituel des vacances risque de ne pas être accompli par les familles d'accueil. Les chefs de famille expliquent que cette dérogation par la crise économique que traverse le pays. Certains cherchent tant bien que mal à joindre les deux bouts. Un reportage de Lalaïcha Walet Infa avec la voix de Adama Amadou Aïdara.
Très difficile de joindre les deux bouts, se lamentent les parents des élèves. Avec les vacanciers et la rentrée des classes, ils sont partagés entre la peur de ne pas être à la hauteur et les poids des dépenses.
C'est difficile, hein, madame. Parce qu'il y a certains parents là, hein, et ils ne vont pas comprendre.
Finalement, je suis en train de voir avec un ami qui vend ces documents-là. Si toutefois je peux faire une avance, après je vais payer après. J'ai une vacancière qui est chez moi. Je suis à Bamako pour deux ou trois jours de formation. De retour, on va chercher les voies et moyens pour la faire retourner.
Actuellement, là, tout le monde sait qu'au Mali, là, ça chauffe.
Dans ces genres de situations, la rationalité doit prévaloir. C'est l'avis donné par le sociologue Dr Yacouba Doukouni.
Si on est dans une situation déjà, qui est une situation générale de pauvreté endémique, alors c'est aux parents vraiment de prendre des responsabilités, de comprendre qu'en réalité, toutes les années ne sont pas du tout égales. Il ne faudra pas vraiment s'endetter auprès des institutions financières ou bien auprès des amis et qu'on soit dans l'incapacité de pouvoir rembourser. L'action ne doit pas être plus émotionnelle que rationnelle.
Les autorités ont fixé la rentrée scolaire 2024-2025 au mardi 1er octobre 2024. Et de nombreuses écoles sont toujours occupées par les sinistrés des inondations.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Autre actualité de ce journal, la décision de fermer 7 sites de marché à bétail semble perturber ce secteur économique du district de Bamako. Des rencontres sur la situation ont commencé la semaine dernière. Les autorités ont même désigné des endroits qui peuvent accueillir ces lieux fermés. Il s'agit de Zantigila, Cathédrale et Sanakoroba. Les responsables de ces marchés sont réticents vis-à-vis de cette décision. Écoutons ce reportage de Mamadou Samasekou.
Au marché à bétail de la zone industrielle, des vendeurs de bétail affirment que cette délocalisation engendre des difficultés. Mais certains disent être prêts à respecter la décision des autorités.
À moins que cela pose un problème aux riverains. Quoi qu'il arrive, les clients vont nous rejoindre où que nous soyons. Ce n'est pas sans difficulté parce que personne n'ignore la crise que traverse le pays. Mais on fera avec.
De leur côté, les responsables de la filière viande bétail ont demandé à l'État de prendre en considération les conséquences du déménagement sur les travailleurs. Ils proposent d'envisager des voies et moyens de rester sur place. Banyama Koulibaly, président de la filière viande bétail du district de Bamako.
Sans des mesures sécuritaires, quitter la ville pour ces endroits indiqués n'est vraiment pas sans conséquences. Nous demandons au gouvernement de prendre en compte ces aspects et qu'ensemble trouvons des solutions dans l'intérêt de tous. Monsieur le ministre a donné l'assurance de transmettre le message à qui de droit.
Des sociologues estiment que vu la situation sécuritaire, la fermeture de ces espaces est une nécessité. Boubacar Boukoum, sociologue.
Ce qui est de bonne guerre. Mais malheureusement, pour des raisons de sécurité, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de délocaliser ces différents espaces pour plus de visibilité, parce que déjà, c'est des espaces à proximité des maisons, des habitations, donc le risque est très grand.
Les responsables des marchés à bétail de Bamako affirment qu'ils sont en train de se concerter pour faire d'autres propositions concrètes aux autorités.
Je vous l'annonçais dans les titres, les poissons se font de plus en plus rares dans le fleuve en cette période à Mopti. Pour les acteurs du domaine, le secteur de la pêche est impacté par les dérèglements climatiques et les comportements des riverains. Alors que la Venise malienne est considérée comme étant une zone de pêche par excellence au Mali depuis des années. Nous retrouvons à Mopti notre envoyé spécial Moussa Malé Sissoko pour plus de détails.
Les activités de pêche tournent au ralenti avec la montée des eaux du fleuve. Mopti Indé est un quartier habité majoritairement par des bozos. Des pêcheurs évoquent les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Nous avons besoin d'aide pour bien mener nos activités. Il faut désensabler le fleuve.
Actuellement, il est difficile d'avoir des poissons dans cette crue. Beaucoup d'entre nous n'ont pas les moyens. Nous nous endettons pour acheter des filets et louer des pirogues.
Le directeur régional de la pêche et reconnaît la baisse de production des poissons à Mopti. À en croire Bokari Guindo, cette situation serait liée à plusieurs facteurs.
Les facteurs causés par l'homme et les variations climatiques que nous observons. L'irrégularité du cru, de la pluie aussi. Il y a l'utilisation aussi des engins de pêche qui ne sont pas conformes. Nous, on cherche à améliorer les bonnes pratiques des pêcheurs pour qu'ils sortent de l'eau pour revenir pour développer la pisciculture.
Le directeur indique que la production en pisciculture est en progression dans la 5e région depuis 2013. Près de 400 tonnes de poissons ont été produites en 2013 dans la ville. De Mopti, Moussa Malé Sissoko pour Studio Tamani.
Sur un tout autre sujet, la teinture artisanale est l'une des pratiques artistiques les plus répandues en Afrique. Une main-d'œuvre qui met en valeur les tenues africaines, en particulier le basin. De nos jours, cette pratique fut mise de côté au profit du basin importé. Toutefois, des teinturières soutiennent que la teinture artisanale reste d'actualité. Plusieurs femmes aussi affirment qu'elles préfèrent acheter des basins blancs et les teintes des couleurs de leur choix. Reportage de Djeneba Diallo.
La teinture artisanale qui avait perdu les pédales à un moment fait son retour en toute douceur. La teinturière reste positive là-dessus. Mastan Sissé, teinturière.
La teinture artisanale peut tanguer, mais elle ne va jamais tomber. De nos jours, elle est en train de refaire surface, même si ce n'est pas comme avant. S'il plaît à Dieu, elle va revenir au premier rang.
Cependant, si des teinturiers se plaignaient de la rareté de la teinture, certains vendeurs n'ont pas eu de problème à ce niveau. Awakone, vendeuse de basans teintés.
Les basins venant d'ailleurs et ceux d'ici ne sont pas pareils. Ils sont venus avec pour nous concurrencer, mais ils n'ont pas pu. Au contraire, nos prix augmentent. On avait des robes teintes à 125 000 francs CFA et aujourd'hui elles sont à 175 000 francs, voire
200 000. Malgré le long processus de la teinture artisanale, des femmes assurent qu'elles préfèrent nettement teindre leur tissu. Elles trouvent que c'est plus joli. D'autres par contre n'ont pas de préférence.
L'acheter en blanc et le teindre, c'est ce que j'aime. Que ce soit avec nos teintures ou une teinture de l'usine, j'utilise les deux.
Je préfère acheter un basin blanc et le teindre.
Selon les teinturières, il faut plus de sensibilisation pour que les femmes africaines reconnaissent la valeur de la teinture artisanale. Elle est plus durable, elle valorise notre culture, affirme-t-elle.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Notre zoom sur d'aujourd'hui parle des personnes qui sont irréprochables dehors, mais à la maison, ça en est tout autre, n'est-ce pas, Lale Tangara?
Effectivement, il y a de ces personnes qui paraissent bien dehors. Quand tu les vois, le respect s'impose et elles sont même enviées par les autres. Mais ne vous fiez pas à cette apparence car je ne vous ai pas tout dit. Gogo est une jeune dame, très bien soignée dehors. Quand tu l'aperçois, tu es tout content. Elle dégage une beauté pas possible. Mais je vous déconseille de rendre visite à Gogo chez elle. Sa chambre, on dirait une friperie tellement que c'est désordonné. Des effets éparpillés partout. Quand ses amis viennent, elle est obligée de dégager certaines affaires pour qu'ils puissent s'asseoir. Son lit a l'air d'une table à condiments. Il y a tout là-dessus. Gogo n'est pas la seule. Moussa, le chocoboy du quartier, suit également les mêmes traces. Moïse, le sapeur, l'ont ainsi nommé ses amis. D'autres l'appellent le maître de la sapologie, tellement qu'il s'habille bien. Attention, Moïse, le plus envieux de tous, n'est pas aussi parfait que ça. Hein. Sa mère passe son temps à tout arranger derrière lui. La citation qui dit que l'apparence est trompeuse colle bien à ces deux-là.
L'apparence est trompeuse et c'est ce zoom sur qui referme cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Gagne Kanté était à la technique. Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Vous pouvez également écouter gratuitement ce journal et le magazine en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Longtemps considérée comme un tabou, l'infertilité chez l'homme constitue aujourd'hui un problème de santé publique. Elle est définie par les professionnels de la santé comme étant l'incapacité d'un homme à faire un enfant avec sa partenaire. Ce phénomène est souvent source de conflits dans les couples ou même de divorces. Quelles sont les causes de l'infertilité masculine? Comment la prévient-on? Est-elle curable? Des éléments de réponse dans ce magazine Santé, une réalisation de Fatih Yatara.
Les causes de l'infertilité sont multiples selon les spécialistes de la santé. Certaines sont innées, d'autres sont liées aux infections sexuellement transmissibles et d'autres pathologies, explique Dr Sissoko Idrissa, chirurgien urologue au CHU de Kati.
Les infections sexuellement transmissibles à répétition durant le bas âge, des infections urinaires à répétition, ça peut être des causes d'origine vasculaire. Ça veut dire qu'il y a une malformation ou il y a des anomalies vasculaires qui viennent au niveau des testicules. Ça peut être d'origine génétique aussi.
De nos jours, beaucoup de Maliens acceptent l'existence de l'infertilité chez les hommes, comme en témoignent ces personnes rencontrées à Bamako, Sikasso et Mopti.
L'infertilité chez l'homme, ça existe, c'est une maladie. Mais ce n'est pas facile de détecter cette maladie-là. Vous allez voir que même si l'homme se marie, qu'il n'arrive pas à avoir des enfants pendant plusieurs années, ce n'est pas dans l'immédiat qu'il va reconnaître qu'il est malade.
L'infertilité, selon moi, c'est l'absence de détails importants qui favorise la conception de l'enfant.
C'est une maladie qui concerne les hommes et les femmes. Ça ne concerne pas que les femmes.
Je connais cette maladie.
Je sais que tout comme les femmes, les hommes aussi peuvent souffrir de cette maladie.
Qu'en est-il du traitement de l'infertilité chez l'homme? Dr Idrissa Sissoko, chirurgien urologue, répond que la maladie peut être traitée dans certains cas.
On peut éviter les infections sexuellement transmissibles. Sinon, si ça existe, il faut les traiter correctement. Dans les cas d'anomalies vasculaires, si vous avez une varicocèle, c'est-à-dire une dilatation anormale des veines au niveau du testicule, il faut les corriger. Ça se fait tout le temps ici et ça donne de très bons résultats. Il y a des cas d'infertilité masculine qui sont traitables et ça donne de très bons résultats.
Du côté de la médecine traditionnelle, l'infertilité est un des motifs majeurs des consultations. Sambou Sissoko est tradithérapeute à Bandiagara.
On enregistre beaucoup de consultations par mois. Nous soignons cette maladie par des plantes. Dans la plupart des temps, on a gain des causes. Plusieurs patients viennent nous voir pour nous remercier après.
L'infertilité chez l'homme engendre parfois des problèmes dans les couples. Les femmes sont généralement accusées lorsqu'un couple peine à procréer. C'est le cas de Harija, une femme longtemps considérée stérile à tort dans son foyer.
J'ai vraiment souffert. La belle famille, les amis et même les gens du quartier, tout le monde croyait que c'était moi le problème. Ses parents lui avaient donné une femme, mais ils n'ont pas eu d'enfant. Mais j'ai quitté. Dieu merci, j'ai aujourd'hui deux enfants dans une autre foyer.
Le caractère tabou de cette pathologie chez les hommes a longtemps été cautionné par nos coutumes et mœurs, selon les sociologues Soumeila Oulalé.
Lorsque le couple n'arrive pas à avoir d'enfants, généralement c'est la femme qu'on accuse, parce qu'on suppose que la femme, c'est elle qui a souvent des problèmes de fécondité. C'est-à-dire qu'avant que ça ne soit comme ça, les sociétés individuelles, même si l'homme était stérile et que l'on sache que l'homme était stérile, on faisait en sorte de protéger l'homme. On faisait en sorte qu'il y ait un homme discret qui puisse coucher avec la femme pour donner des enfants.
Selon des spécialistes en infertilité masculine et aide médicale à la procréation, le taux de consultation des maladies liées à l'infertilité masculine constitue environ 10% des consultations en urologie.